avec une espèce de petite récapitulation de nos pour la 3, 3, 6, 3, 9 pour la dixième psy pour sacerdoce, comme les 10 commandements de Dieu. Voilà. Alors, ça permet de faire une petite reprise et on a un petit aperçu global. Peut-être qu'un jour nous aurons le bonheur de remettre ça par écrit de manière plus propre, de manière que l'ordinateur puisse travailler. Ah. Alors, je propose ça. J'ai essayé cette nuit là, entre deux confessions de. Mais il n'y en a que la moitié. Il n'y en a que la moitié. Il n'y en a que la moitié, mais vous inquiétez pas, la moitié, je vais vous la dicter après. Alors, mais la moitié, l'autre moitié, vous verrez, ce sera facile. Parce que l'autre moitié, vous la connaissez déjà. Comment est-ce qu'on essaie de faire une synthèse, une espèce de. Comment faire une synthèse de tout ce qu'on a vu dans les pointes. Les pointes de ce qu'on voit en théologie, c'est ce qui n'est pas. On enlève tout ce qui est imparfait, tout ce qui est accidentel, tout ce qui est broderie, hein, les histoires du furoncle dans le nez pour lequel prie, etc. Bon, tout ça on enlève, et on ne garde plus que les choses parfaites, n'est-ce pas? Alors les choses parfaites dans l'ordre théologique répondent au même principe que les choses parfaites dans l'ordre métaphysique. C'est pourquoi il vaut mieux prendre les 5 modalités de l'acte pour essayer de ranger tout ça. L'acte, les 5 modalités de l'acte sont les 5 modalités de la finalité, de la perfection finale dans le domaine métaphysique. Bon, ça, c'est pour ça que vous avez le petit titre là-haut, puisque c'est la technique, c'est l'outil de rangement. Voilà. Esse, bonum, ferum, vita et devenir. Dès que quelque chose est parfait, or le sacrement de l'ordre est parfait, le sacerdoce est quelque chose de parfait, la sainteté sacerdotale est parfaite, le sacerdoce royal est parfait, le Christ éternel est quelqu'un de parfait, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de l'éternité, alors vous pensez bien, dans l'ordre de. Alors, du coup, comme il a cette perfection et qu'il existe, eh bien, forcément, il existe actuellement dans toute cette perfection intime en tant qu'il existe, en tant que sacerdoce éternel. Et du coup, il attire tout à lui, bonhum. Et du coup, il est toute vérité et vérité de toute chose. Et du coup, verum. Et du coup, il donne la vie. Toute vérité, toute réalité absolument parfaite dans l'ordre métaphysique est nécessairement source de vie. Pour et enfin, il advient. Il fait, j'allais dire, muter le temps, le devenir. Hein, il fait muter le temps, point de vue du devenir. Voilà. Alors, on avait, on reprend dans l'ordre, hein, on avait vu que justement, l'homme, Dieu crée l'homme, j'allais dire, comme dit saint Hildegarde, donc comme celui en qui se retrouve toute. L'homme est celui qui est debout et capable est celui qui est capable de conjoindre en lui tout le divin, tous les éléments d'en bas, la création, et tous les éléments d'en haut, l'univers. C'est le prêtre de l'univers, c'est le prêtre de la création. D'où ces 5 centres de gravité dont nous avons parlé, la neshama de la terre, qui fait que le centre de gravité est en dessous de nous. Notre centre de gravité est au milieu de nous, notre centre de gravité est dans notre nefesh, notre visage, notre centre de gravité est dans le souffle que Dieu a mis sur nous, de sorte que nous contemplons des choses qui nous sont supérieures. Et enfin, la Ruach Kadosh, nous sommes en possibilité, en disponibilité, en tout cas en possibilité, en puissance obédientielle, à recevoir l'incréé, l'éternel, le Saint-Esprit, qui est infiniment, infiniment, infiniment au-dessus de l'homme. Mais nous sommes quand même en puissance obédientielle à recevoir en plénitude. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, quand l'homme est prêtre de la création de l'univers, c'est qu'il a ses 5 centres de gravité. Et l'homme, qui est coupé, il n'y a qu'un cinquième, et bien ou bien son centre de gravité, c'est les choses instinctives, n'est-ce pas? C'est les énergies. Ou bien c'est le cœur. Alors à ce moment-là, sa spiritualité, c'est animal. C'est ce qu'il ressent. C'est ses entrailles, ses reins, son cœur. Ou bien c'est sa vie contemplative. Ou bien il est sagesse. L'homme arrive à la sagesse, c'est-à-dire il est vraiment homme. Son centre de gravité à ce moment-là est au-dessus de lui. Et si il vit du Saint-Esprit, son centre de gravité est dans la très sainte Trinité. Voilà. Nous avons vu ça longuement, souvent, donc pas de problème. C'est à cause de ça qu'on va retrouver différents degrés dans le sacrement. Quand vous recevez le baptême, quand nous recevons le baptême dans le sacrement chrétien, du Christ éternel, nous participons un tout petit peu à son sacerdoce dans le baptême. Tout baptisé est prêtre, prophète et roi, mais prêtre aussi. Bon, il y a des ordres mineurs. Il y a des ordres mineurs. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais avant d'ordonner quelqu'un évêque, il vaut mieux qu'il soit ordonné prêtre. Et avant qu'il soit ordonné prêtre, on l'ordonne diacre. Et il exerce pendant au moins un an comme diacre. Et avant d'être ordonné diacre, il est ordonné dans les ordres mineurs. Ah, ça, vous ne savez peut-être pas. Il y a l'acolyta, le lectorat, qui fait qu'il est... Voilà. Et ceci dans toutes les églises. Donc vous avez donc la plénitude de l'épiscopat, la plénitude du sacerdoce chrétien ne se trouve que dans l'épiscopat. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il n'y a que dans l'épiscopat que le célibat est exigé de plein droit divin. Mais dans l'Église latine, on l'exige aussi pour le prêtre parce qu'il donne le pardon, parce qu'il donne l'Eucharistie et parce qu'il est disposé à donner également la confirmation dans certains cas. Alors on exige le célibat pour le prêtre latin. D'accord? Ça va? Bon, eh bien, il y a différents noms, sacrements, donc, du sacerdoce. On ne dit pas seulement le prêtre. Ben, on dit le sacerdoce. On dit c'est le sacrement du sacerdoce. C'est le sacrement du prêtre, du presbytéra. C'est le sacrement de... C'est le sacrement de l'ordre. C'est le sacrement du presbytère, le prêtre. C'est le sacrement du sacerdoce. Vous voyez tous les noms qu'on donne. C'est le sacrement de la paternité. Tiens, voilà le père qui arrive. Le père. Alors, donc, vous voyez, c'est le sacrement de... C'est le pontife. Dans la plénitude, c'est l'épiscope. Mais enfin, les noms principaux, vous sentez bien, c'est le sacrement de l'ordre, le sacrement du presbytéra, le sacrement, le prêtre, le sacrement du sacerdoce. C'est les noms principaux. Et les autres réfèrent plutôt aux fonctions de ce sacerdoce. Alors, on dira, ah ben voilà le ministre, voilà le célébrant qui arrive, voilà le diacre qui arrive, voilà le pasteur qui arrive, tiens, voilà le père, ou alors voilà le curé, tiens, le curé. Ici. C'est dans le devenir, le curé. Mais pour ce qui est du sacrement à proprement parler, vous sentez bien que le pasteur, ça ne relève pas du sacrement, puisque vous êtes le pasteur de l'Église catholique à un endroit, mais le pasteur, chez les protestants, vous voyez, il n'y a pas de sacrement. Bon, enfin donc, le nom du sacrement, j'espère que vous le repérez, c'est ici. Ça, il faut le sacrement, épiscope, sacrement, l'ordre, le prêtre, oui, le sacerdoce, 1, 2, 3, 4. Oh, à la rigueur, le père, on ne dira jamais le père pour un pasteur, hein. Voilà. Bon. Alors, les charges. Voilà. Les charges que vous pouvez actuer. Quand vous voulez vivre du sacerdoce, vous avez un prêtre sous la main. Comment faire pour en user? Parce que tous les sacrements, il faut en user et en jouir. uti et fruit. Saint Thomas d'Aquin. Tous les sacrements. Alors comment est-ce qu'on fait pour user le... Comment on fait pour user le Père? On va l'user jusqu'à la garde, n'est-ce pas? Bon. Alors, très facile, il est là pour ça. Le jour où on l'ordonne, eh ben, le Seigneur dit, bouffez-le. Alors, eh bien, il suffit d'actualiser le sacerdoce dans les munera, dans les charges propres de son sacerdoce. Si vous lui dites, racontez-moi une blague, vous ne rentrez pas dans l'outil sacerdoce, dans l'usage du sacerdoce, n'est-ce pas ? Et vous écoutez la blague. Sauf si la blague, c'est pour vous faire comprendre la très sainte Trinité. Ah ! Si c'est pour vous faire comprendre la très sainte Trinité, ça veut dire qu'il rentre dans le munus docendi. Il vous enseigne. Il vous enseigne la vérité incréée, éternelle, et tous les mystères révélés. Voilà les charges principales. Charge de sanctification, charge d'enseignement, docendi, et charge de gouvernement. C'est à lui qu'on obéit. On n'exige pas l'obéissance d'un prêtre si on estime que c'est votre prêtre. Si vous estimez que c'est le prêtre des autres, vous pouvez lui commander. Mais si c'est votre prêtre, vous lui obéissez. Parce qu'on ne peut pas obéir à 800 prêtres. Hein. Alors vous avez un prêtre, et bien vous lui obéissez. Vous ne pouvez pas obéir à 800 pères spirituels en même temps. Trop facile, tu vois. Tu fais ta petite cuisine. Alors à ce moment-là, c'est toi le pontife. Tu es le pape au-dessus de tes 800 prêtres. Tu choisis. Ça va pas. Tu prends un prêtre. C'est exclusif, vous comprenez? Alors, il faut connaître ces mots-là. C'est des mots de catéchisme. Ça, au fond, c'est du catéchisme, hein, ça. Ce tableau, c'est du catéchisme pour enfants. On revoit rapidement, quoi. Quoi, je ne vous apprends pas qu'on dit le père, on dit le prêtre, on dit le sacerdoce, quand même. Allons. Alors, les charges. Charge de gouvernement. Charge de sanctification. Charge d'enseignement. Il est chargé aussi d'être intimement et de manière intérieure, contemplative, victime. Il est l'expiateur. Il s'offre lui-même de manière contemplative d'amour en victime. Et enfin, c'est lui le centre de rassemblement. C'est lui qui convoque. Kal. Convoqué. Le fameux mot en hébreu qui va donner église après. En grec, ecclésia. Kal. Tu rassembles tout le monde dans l'église. C'est autour de lui que tu rassembles. Mais comprenez que là, bon, les cloches sonnent. Ah, le curé est là. Vous venez. C'est ça, rassemblement. Bon, ça, c'est parce que le curé est là, vous voyez bien. Alors à ce moment-là, ce qu'on a dit, quand vous allez, vite, vous laissez tomber, pardon, la brosse à dents, hein, dans le cabinet, tout ça, et vous courez vite, vous oubliez de fermer le portail, ça fait rien, vous allez vite à l'église. Et bien pendant ce temps-là que vous courez à l'église parce que les cloches sont sonnées, parce que le curé est là, pendant tout ce temps-là que vous courez, eh bien, vous actuez le sacerdoce royal et le sacerdoce ministériel. Et entre vous deux, il y a la tension. Si vous le vivez comme ça, il y a la tension. Il y a la très sainte Trinité en tension missionnaire entre vous deux. C'est pour ça que vous y courez si vite, pour être avant l'heure, avant le commencement de la messe. Vous arrivez toujours au moins un quart d'heure à l'avance, évidemment. Parce que vous voulez hâter le retour du Christ. Vous voulez être avant l'heure prévue. Puisqu'il s'agit d'anticiper l'éternité. C'est le signe. Si vous arrivez en retard, c'est que vous n'avez sûrement pas actué. Sûrement pas, ça, c'est absolument certain. Vous ne l'avez pas actué ici. Vous pouvez du coup vous rattraper hein, pour attraper, et constater que le prêtre est un pauvre type. Hein, on en a parlé beaucoup hier, ça. C'est un pauvre mec. C'est à travers sa pauvreté instrumentale. C'est un instrument. Ah, ça, c'est capital. Hein. Ça fait partie essentielle du sacerdoce. S'il n'est pas instrument, l'Esprit Saint n'est pas envoyé. S'il fait son petit truc, s'il raconte s'il fait sa petite religion, quoi. Il fait sa petite messe, il fait ses propres liturgies, il invente les paroles, il change tout. Il change le Notre Père, il change l'Évangile, il change tout. Bon, non. Il transmet la didache Christou, infailliblement, intégralement. Il rajoute rien de lui-même. Mais c'est un pauvre type, c'est vraiment le pauvre type. Il y a des défaillances, etc. Il m'énerve, j'ai envie de foutre le camp tout de suite. Ça, excellent, excellent. Alors, il dit, enfin, je vois qu'il y a une extériorité de pauvreté. Ça prouve qu'il est victime, ça prouve qu'il expie. Il voudrait bien lui briller, être un prêtre en état de transfiguration. Il aimerait bien, hein. Mais ce n'est pas le cas. Il est pauvre, comme Jésus sur la croix, défiguré. Même pas visage humain, rien, repoussant. Ah, à ce moment-là, excellent. C'est le meilleur de tous les prêtres que vous avez jamais vus. Il bégaye pendant le sermon. Vous n'avez pas envie d'écouter ce sermon nul. Hein. Excellent. Sinon, si c'est intéressant, si c'est passionnant, à ce moment-là, vous comprenez, vous y allez parce qu'il vous fait autant de bien que Coluche, le mec. Mais c'est pas le prêtre que vous y allez à cause de Coluche, vous y allez pas à cause de... Ouais. Il vous fait autant de bien que Coluche. Enfin, maintenant Coluche, il est mort. Ah, alors, enseignement. Il enseigne. Vous l'écoutez, il proclame l'évangile, etc. On va voir ça. Mais les trois principaux sont évidemment ce que vous pouvez, vous, ce que le baptisé peut actuer lui-même directement, c'est sa fonction d'enseignement, de sanctification et de gouvernement, parce qu'il en est le terme directement. Il enseigne à l'Église. Il sanctifie les membres de l'Église et il gouverne les membres de l'Église. Donc les membres de l'Église actuent le sacerdoce. Voici la première charge. Le munus sanctificandi est ici. Le prêtre sanctifie lorsque il donne à un des membres de l'Église un sacrement, que ce soit l'ordination ou la confirmation, ou l'Eucharistie, ou l'absolution, le sacrement des malades, ou le baptême ou le mariage. C'est sûr que le baptême et le mariage, c'est propre au diacre. L'Eucharistie, l'absolution des malades au prêtre, l'ordination et la confirmation à l'évêque. Donc pour le munus sanctificandi, vous sentez bien que c'est donc le sacerdoce baptismal, royal, des fidèles, sacerdoce des fidèles et sacerdoce royal, qui actue le munus sanctificandi. Ça va? Le munus docendi, l'enseignement. Ben, vous écoutez le prêche, la prédication apostolique de l'apôtre et du successeur de l'apôtre. Vous obéissez, vous écoutez le prêtre qui défend les vérités de la foi qui sont attaquées par les hérésies. Et les vérités de la morale qui sont attaquées par les idéologies. Il est chargé, le prêtre, le sacerdoce, c'est la source de l'infaillibilité dans l'ordre des vérités intangibles dans notre monde humain et dans notre création, dans le domaine de la morale, dans le domaine de l'éthique, mais aussi dans le domaine de la foi. Il proclame la parole de Dieu, vous voyez ? Les ordres mineurs, c'est vous ordonnez des gens au lectorat, à l'acolyta et au sous-diaconat. Il y aurait aussi l'exorcisat. Pour qu'ils puissent proclamer la parole de Dieu. L'évangile, etc. Et enfin, ils catéchisent. Ça, c'est le baptême. Le baptisé, confirmé, catéché. Donne la catéchèse. Mais c'est une fonction sacerdotale. À chaque fois que vous faites le catéchisme, vous organisez la catéchèse. Si vous êtes marié, par exemple, vous organisez un petit groupe de préparation au mariage pour enseigner la sponsorité sacramentelle à des petits jeunes qui se préparent au mariage dans la paroisse, hein, eh bien, vous pouvez le faire parce que vous êtes baptisé et confirmé, mais vous remplissez une œuvre de sacerdoce royal. Ce n'est pas une œuvre baptismale que vous faites, c'est une œuvre sacerdotale que vous faites, dans ce premier degré. Ok ? Voilà la munus docendi. Mais le prêtre aussi peut catéchiser. En disant, mais c'est terrible, le prêtre, il ne fait pas le catéchisme dans la paroisse. C'est pas nécessaire. Si les baptisés peuvent le faire, c'est autant au baptisé qu'à lui. Vous voyez ? Alors, lui, il doit prêcher l'homélie et défendre les vérités de la foi. Ça, sûrement. Ça lui est réservé. C'est lui qui, en dernier recours, tranche. Si quelque chose appartient à la vérité de l'Église, infaillible de l'Église ou pas. Il peut dire en même temps, je ne suis pas d'accord avec cette doctrine infaillible de l'Église. Je sais que l'Église dit ça, mais je ne suis pas d'accord avec le pape. Mais en tout cas, il te dira, le pape dit ça, ça c'est sûr. Il te le dira à tous les coups, même s'il n'est pas d'accord. Bon, alors, la munus docendi, munus gubernandi, c'est lui qui a autorité, c'est lui qui préside, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui conseille, direction spirituelle, c'est lui qui éduque. Mais attention, dans l'ordre de la grâce. Pardon, dans l'ordre de l'augmentation de la grâce. Pas dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre de l'augmentation de la grâce. Ah, reprenons les éléments du coup du sacrement. Vous savez que dans tous les sacrements, c'est une reproduction du mystère de l'incarnation où le Verbe se fait chair. Donc toute la matière est assumée par une forme suprême. C'est ça l'incarnation. Dieu fait homme. Et donc, un sacrement, il y a également cette assomption de la matière dans une forme suprême. Alors, quelle est la matière du sacrement? Quelle est la forme du sacrement? C'est ce qu'on se pose toujours comme question. Donc, dans l'Eucharistie, la matière, c'est le pain et le vin. Et la forme, c'est la parole du Christ sortant de la bouche du prêtre, disant « Ceci est mon corps, ceci est mon, et la coupe de mon sang. » Mais pour le sacrement de l'ordre, quelle est la matière? Donc si je n'ai pas de vin et que c'est de l'huile, même si c'est le pape, pas de messe. Alors là, donc s'il y a un de ces choses-là qui manque, le type n'est pas ordonné. Point à la ligne, s'il n'est pas prêtre. Alors, il faut une matière particulière. Commençons par la forme. La forme, c'est quand l'évêque prononce les paroles consécratoires. Quand il lit la préface. Et la préface, c'est à un moment donné, vous savez quand c'est la préface, c'est à l'intérieur de la messe, hein, quand on dit que ça se termine par Dieu. Vous savez, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est ça la préface. Eh bien, dans la préface d'ordination, c'est les paroles de la préface d'ordination qui sont la forme sacrement, qui sont « Ceci est mon corps ». C'est la coupe de mon sang, de l'ordination. Ça va ? La matière, c'est quand les mains instrumentales de l'évêque se posent sur la tête. Hein. Silencieusement. C'est la matière seulement, ça. C'est la transmission. Pourquoi ? Parce que c'est une transmission matérielle. C'est la transmission dans la succession apostolique, directement, matériellement, d'un pouvoir instrumental. C'est la matière. Ça, c'est deux fois. Mais la matière, c'est vrai, a changé dans l'histoire de l'Église. Bon, je vous en ai déjà parlé. Mais la matière, elle est liée à un sujet, parce que si l'évêque impose les mains à un éléphant, il ne reçoit pas le pouvoir instrumental du sacerdoce. Il faut quand même que ce soit au moins un être humain. Ce serait pas mal. Hein. C'est bon, non, mais les Anglais seraient capables d'ordonner les éléphants. Mais oui, la reine d'Angleterre, tout à fait, elle serait tout à fait d'accord. Elle est capable d'ordonner même des choses encore plus... C'est encore plus aberrant d'ordonner une femme qu'un éléphant. C'est beaucoup plus aberrant. Alors... Mais pourquoi? Mais vous allez voir, ça fait partie. Parce qu'un éléphant, c'est mal. C'est mal, un éléphant. La grosse blague. Bon. Alors, il faut que ce soit un sujet humain, premièrement. Il faut que ce soit un sujet humain. Et il faut que ce sujet humain soit disposé. Donc, il faut qu'il ait la foi. Il faut donc qu'il soit baptisé. Il faut qu'il soit choisi par l'ordinaire. L'ordre. Il faut qu'il soit choisi par l'ordinaire. Il faut qu'il ait la vocation. Il faut qu'il soit contemplatif et qu'il ait reçu l'appel intérieur. Il faut qu'on l'ait appelé, quoi. Samuel. Hein? On pourrait lire ce passage de... C'est le grand passage de la vocation. Samuel. Bon. Et il faut qu'il réponde dans son humanité à l'exigence du signe, puisque tout sacrement dans son sujet, doit répondre à l'exigence du signe, puisque tout sacrement est un signe efficace. Donc il doit signifier sa condition adamique. Il doit signifier qu'il est Adam. Il doit signifier qu'il est masculin, quoi. Pourquoi ? Parce que il doit signifier le nouvel Adam de Christ est masculin. C'est le nouvel Adam. C'est pas la nouvelle Ève. Et sa masculinité donc fait partie essentielle de son sacerdoce, du côté du sujet. Sonne les cloches à l'église et il se revêt des vêtements. Il commence par vitre, il est en soutane bien sûr, il est en soutane. Ou il est en clergyman, ou il est en... Enfin, tout ce que vous voulez. C'est obligatoire, hein, d'avoir un signe distinctif. Il court vite dans la sacristie, en soutane, habit clérical. Il se précipite, il actionne les cloches, il met l'aube, il revêt l'aube de son baptême, il revêt l'aube de, par-dessus son habit clérical, il remet cette aube blanche qui représente le point de vue de la résurrection, et qui fait qu'il exorcise ordre mineur, qu'il exorcise tout ce qui peut entacher son ministère à venir, celui qui est en train de venir, et il est en train de reproduire sacramentellement, symboliquement, le mystère de l'incarnation. Le Verbe se fait chair. Il met le cordon en faisant la prière suivante. Seigneur, mets sur moi le cordon pour que je puisse rentrer dans tous ces mystères de la manière la plus intime possible et la plus intérieure possible. Expiation, effectivement. Puis mets l'étole, Seigneur, revêt-moi de l'étole de l'immortalité que j'ai perdue par la prévarication du premier Adam. Le pouvoir perdu par Adam, c'est l'étole. Le diacre, mais vous savez bien, une étole aussi. Puis, enfin, il revêt la chasuble qui représente donc le point de vue du revêtement du sang rédempteur du Christ, glorifié dans la résurrection, c'est le pouvoir sacerdotal, proprement dit, n'est-ce pas? Et puis, s'il est évêque, il prend la crosse et la mitre. Hein? Oui, mais l'anneau aussi. Mais pour la messe, là, je parlais. Oui, tu peux mettre l'anneau. Très bien. Et puis aussi le comment ça le non ce que met le pape, ce que met le primat des Gaules et le bon peu importe, c'est pas grave, ce que met le pontife, parce qu'il y a des choses que le pontife met que ne peut pas mettre l'évêque. Bon, enfin je peux pas tout mettre, hein. Bon, alors nous avons vu aussi que Jésus, aussitôt après avoir quitté Joseph en sa sépulture, il se précipite, poussé par l'Esprit Saint. Il se précipite, poussé par l'Esprit Saint, vers Jean-Baptiste. Alors ici, ça, c'est les prophéties du sacerdoce. Jésus est envoyé. Il n'est toujours pas prêtre, il est envoyé. Donc s'il est envoyé par le Père, il n'est pas encore prêtre. Pour être prêtre, je vous rappelle, il faut que l'aller et le retour soient simultanés. Donc il va prophétiser son sacerdoce. Le sacerdoce est prophétisé. Le sacerdoce est présence de la très sainte Trinité. Le baptême de Jésus dans le Jourdain est une révélation sur le mystère du sacerdoce et pas sur le mystère du baptême. La très sainte Trinité est là. Et vous le savez bien, puisque vous voyez dans les Actes des Apôtres, ah, vous avez reçu le baptême de Jean-Baptiste. Bon, ben, nous, on va recommencer. Ce n'est pas ce baptême-là qu'il faut. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il est baptisé. Alors ça, il faudrait relire ça pour voir à l'intérieur de ce texte du baptême. Voici l'agneau de Dieu, etc. Les cieux sont ouverts. Voici mon fils bien-aimé, écoute, etc., etc. Il faudrait relire ce texte, on n'a pas eu le temps, pour revoir à l'intérieur de ce texte, on pourrait voir tous ces éléments-là, tous les éléments que nous avons vus. Ah, où est-ce qu'ils sont? Ici. Tous les éléments des différents sacerdoces et des différentes vocations et des différents déploiements et de la reste, sacrement de l'ordre. On pourrait aussi, à travers le choix des apôtres, aussitôt après, il sort du Jourdain, André et Jean le suivent, il se retourne et dit « Qui cherchez-vous ?» Et dit « Mais montre-nous où tu demeures. » Il leur dit, bon, venez, suivez-moi. Et ils le suivirent, les deux premiers, André et Jean. Jean n'est pas nommé, André est nommé. André va chercher Pierre. Il lui dit, Pierre, t'appelleras Pierre, tu t'appelleras Pierre. Tu ne t'appelleras pas Simon, plus Simon, mais Pierre. Il voit Philippe là sur le bord d'un fossé, il dit, toi, viens, suis-moi. Il ne lui demande pas son avis. Et il le suit. Et Philippe va voir Nathanaël sous son figuier, en disant, on a vu le Messie, les mecs. Comment est-ce qu'il le sait? On ne sait pas, puisqu'il n'a pas causé avec lui. Et Philippe. Mais enfin, Nathanaël dit de Nazareth, il n'y a pas de Messie, c'est ridicule. Il y va quand même, il dit, qu'est-ce que t'es, toi? Et Jésus lui dit, dis donc, quand tu étais sous le figuier, que tu as vu l'échelle de Jacob, etc., que tu as vu toutes les armées angéliques ici, tel type de vin. Voilà, que tu m'as. Eh bien moi je te voyais, c'est moi qui te regardais. Oh merde, c'est toi le Messie. C'est le théologien. C'est le type le plus intelligent de tous les apôtres et de tous les disciples, Nathanaël. Le plus intelligent. Celui qui en savait le plus. Le plus théologien. Toute son intelligence était au service de la recherche du Messie. Toute son intelligence intérieure, contemplative, purifiée. Très intelligent, Nathanaël.
il est mort écorché vif. Parce que l'intelligence, c'est qu'on ne regarde plus rien que par l'esprit. La chair est à rang. Descend en lambeaux. Alors, vous voyez bien que c'est pas du tout. Là, on pourrait lire les cinq vocations. Les cinq vocations, c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, je crois, mais c'est peut-être 3, je ne sais plus, qui structure les cinq modalités qui sont ici du sacerdoce. N'est-ce pas? En effet, bon, Jean, c'est un sacerdoce d'amour. Et quand on est entièrement livré à l'amour, il n'y a plus que l'autre. C'est pour ça qu'il n'est jamais nommé Jean. Je ne ferai jamais le prénom de Jean dans l'évangile. De Jean. Toujours caché. Dans l'amour, vous disparaissez. Il n'y a plus que l'autre. André est nommé et il garde son nom parce que c'est un apôtre. Et un apôtre efficace. Il va chercher tout de suite le plus gros poisson de l'histoire de l'Église, le premier pape. De quoi est-ce que tu viens? Regardez, je dois aller là-bas à la pêche au. Et son apostolat, parce qu'il est contemplatif, est immédiatement efficace. Et il amène Pierre. Il ne change pas de nom. L'apôtre, c'est comme ça. S'il est contemplatif. Quand j'ai dit au père Emmanuel, mon père, je voudrais changer de...
Oh, oh, je voudrais savoir quel nom tu voudrais prendre de religion.
Je lui dis oui, parce qu'on change comme ça. Il paraît. Enfin, alors je dis, bon, ben, je voudrais m'appeler frère pour être, je sais pas, moins visible. C'est pas? Pour être moins visible, pour qu'on parle moins de moi. Frère Marie-Victoire.
Non, non, écoute, non, 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 non. Déjà, tu éclabousses tout le monde suffisamment. Hein? Bon, écoute, tu t'appelleras Père Patrick.
Tu gardes le même nom. C'est ça? Bon. Pierre, il s'appelle Simon, il l'appelle, il ne t'appellera plus Père, il lui change le nom. On perd son nom quand on est serviteur. On perd son nom, Simon. Puis après Philippe, on lui demande rien du tout. Gratis. La gratuité. Nathanaël, il met son intelligence au service de son sacerdoce. Il met toute son intelligence au service de son sacerdoce. Et c'est l'unification de tout son être dans le don qu'il fait à ce pouvoir sacerdotal. Vous voyez bien, Nathanaël. Voilà les cinq grandes aspect du sacerdoce. C'est un sacerdoce d'amour, c'est un sacerdoce contemplatif, c'est un sacerdoce de gratuité totale. C'est un sacerdoce théologal ou d'une luminosité, d'une intelligence, d'une limpidité tout entière au service de l'amour incréé éternel. C'est un sacerdoce au service de tous les hommes. Les préfigurations dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu et nous l'avons entendu aussi, peut-être pendant les lectures du repas, la bénédiction sacerdotale est donnée à Noé, elle est retirée à Adam. Elle est retirée à Adam. Elle est suspendue et donnée à l'alliance de Noé pour toutes les nations. Le sacerdoce est catholique. À Noé. Mais à la mort de Noé, il est restitué et suspendu sur la mission de Melchisédek. Le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek est un sacerdoce des nations. C'est le Talmud qui dit ça. C'est les Juifs qui enseignent ça. C'est le sacerdoce des nations. C'est un sacerdoce universel et catholique pour les goïms, pour les nations et pour les Juifs. Parce que c'est un sacerdoce qui ne vient pas de la terre, c'est un sacerdoce qui vient de l'Alliance d'en haut. Donc voilà pour Melchisédek. C'est le point de vue absolument de l'amour de tous les hommes, dans tous les temps, dans tous les lieux, parce que c'est un sacerdoce qui vient d'en haut. Moïse, cette bénédiction, pénètre dans la chair d'abord d'Abraham, pour commencer, parce que c'est un sacerdoce de paternité. Abraham est père, Isaac est père, Jacob est père. La paternité du Père, du Verbe de Dieu est là, la paternité du Christ ressuscité qui engendre à la vie de la grâce est là, la paternité du Saint-Esprit qui engendre l'Église de la Jérusalem céleste dans le temps et dans le lieu, est là. Voilà. Isaac, Jacob. Vous voyez bien qu'Isaac, gratuit, hein, sacrifie-le, victime. Vous voyez ? Gratis, on ne lui demande aucun avis. Abraham ne lui demande rien, Jacob ne lui demande rien. Il donne la bénédiction, il voudrait donner à Ésaü, le pauvre vieux. La victime de tous les côtés, en amont et en aval. Extraordinaire, Isaac. La gratuité. À Jacob, c'est vraiment très futé. Hein. C'est le futé. Hein. C'est très intelligent, Jacob. Très contemplatif, échelle de Jacob. Voyez bien, Jésus qui dit, l'échelle de Jacob, là, sous le figuier, tu as vu les anges de Dieu qui montent et qui descendent. C'est la vision de Jacob. Très, très contemplatif, Jacob. Très intelligent, très, très pur de cœur. Abraham, c'est l'homme de la foi. C'est l'homme de la foi. Et cette foi se communique, c'est le père de la foi. La foi commence avec Abraham. Ouais. Il y a quand même des préfigurations étonnantes, là. Voilà. Et enfin, Moïse, qui est le législateur et qui engendre un sacerdoce au service du pardon du peuple, du pardon des péchés, au service de la tente, au service de Dieu. D'où les différents sacerdoces. Il y a effectivement le sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'en haut, le sacerdoce sacramentel, le sacerdoce victimal et le sacerdoce royal. Bon, voilà, ça c'est bien. Et là, sacerdoce royal. Sacerdoce des fidèles, sacerdoce royal. Seulement le sacerdoce des fidèles s'enracine dans la grâce du baptême. La grâce du baptême est sacerdotale, d'accord ? De l'origine, mais elle se déploie, c'est le gland, qui se déploie dans le chêne, sacerdoce royal. Mais c'est le même. Le sacerdoce d'en haut de Melchisédek, c'est le sacerdoce éternel du Christ éternel après l'ascension. Celui-ci en est une préfiguration, et l'autre en est la réalité. Ok ? Alors, la dernière préparation de l'advenue, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est l'institution de l'Eucharistie où Jésus prépare son... la révélation du sacerdoce éternel qui va faire que toute son humanité devient... sa vie humaine devient source de gloire éternelle. Et bien tout ça est préparé par l'institution et l'institut des prêtres. Je dis ça. Ce n'est qu'une institution. Si cette terre était là, œuvre morte. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. La conception du sacerdoce, comme le dit le texte donc de jeudi saint dernier, c'est fait dans le texte de l'Évangile que nous avons lu hier, où Jésus s'adresse au Père et il demande au Père de le glorifier et d'être glorifié avec les 12 qu'il a institués comme prêtres. Et c'est là qu'ils sont conçus. La naissance se fait à la croix. Femme, voici ton fils, voici ta mère. C'est là qu'il y a la nativité, d'une certaine manière, du sacerdoce, avec la rencontre du sacerdoce royal et du sacerdoce sacramentel, au pied de la croix. Tandis que l'humanité, je veux dire l'âme humaine de Jésus, est dans la vision de gloire déjà, même si son corps est mort. C'est la nativité. La vivification du sacerdoce, c'est-à-dire l'actuation du sacerdoce. Je vous ai déjà dit, vous actuez le sacerdoce surtout quand vous voyez un pauvre prêtre. Un prêtre pauvre. Eh bien, c'est dans le tombeau, blessure du cœur. Ô sang Esprit Saint. Et enfin, la croissance du sacerdoce, c'est les 40 jours de la résurrection et l'ascension. Et à l'ascension, c'est la préparation, ça. Et à l'ascension, ça y est, le sacerdoce éternel du Christ est là. Et pas avant. Donc nous avons vu ça. Nous en étions donc à dire le choix des apôtres. Nous avons vu un tout petit peu Cana, pour voir qu'il y avait ici des tas de secrets sur le sacerdoce, la rencontre du sacerdoce royal et du sacerdoce, mais à titre prophétique, si vous voulez, la multiplication des pains, et enfin, le chapitre, du chapitre 6 au chapitre 11 de l'Évangile de Saint Jean, dans la lutte, les sept « je suis » du Christ, les sept présences du Christ comme « je suis », c'est-à-dire comme éternel amour. Et les sept « je suis », alors là, maintenant, c'est à vous de continuer le tableau des correspondances. Les sept « je suis », eh bien, puisque vous avez aussi les autres tableaux de correspondance, les sept « je suis » correspondent aux sept dons du Saint-Esprit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui sortent de l'humanité de Jésus qui est dans l'éternité. Et du coup, vous pouvez commencer à lire l'Apocalypse en reconnaissant à travers ces sept, puisque l'Apocalypse c'est toujours sept, 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 et c'est très facile de voir à chaque description de chaque sept de l'Apocalypse, par exemple première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, à laquelle elle correspond au niveau des « je suis ». C'est très facile. Et de toute façon, vous avez déjà le tableau, je crois, pour ça. Enfin, un jour, il faudra qu'on fasse le tableau de l'Apocalypse en entier. Hein. Bon, je crois que c'était juste une petite vision de synthèse. Ça n'apporte pas rien de plus, hein. Strictement rien de plus. J'ai rien dit de plus. On a tout vu. On le revoit synthétiquement, sans rien rajouter. C'est évident que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de toucher l'immensité vivante du mystère du sacerdoce, quoi. Voyez bien ce que je veux dire. Mais enfin, c'est pour, comme ça, vous avez un petit pense-bête avec ça, oui. Les prophéties, c'est-à-dire Jésus prophétise par sa vie apostolique, il manifeste à l'avance par sa vie apostolique, ses 3 ans de vie apostolique, ce qu'est son sacerdoce une fois qu'il sera ce que sera éternellement son sacerdoce une fois qu'il sera monté dans les cieux à la droite du Père. Donc toute sa vie est une prophétie de ce que réalise son sacerdoce incréé éternel dans les prêtres qui sont utilisés par l'Église avec beaucoup d'amour. Voilà. Bon, alors, voilà. Voilà pour la synthèse. Il reste un quart d'heure. Et si vous avez des questions à poser, pas de problème. On peut... Vous voyez. Mais il y a une chose qui est quand même importante, que je peux vous signaler. Vous êtes en train de... Vous voyez à peu près. C'est pas trop un coup d'assommoir, ça se coule le matin, après une nuit de... un peu... Hein? Mais simplement, voyez bien que ce que ça veut dire. Ça veut dire que... Ah oui, j'aurais pu rajouter aussi une chose que nous avons vue. Hein? Donc, c'est la reste du sacrement quelle est la réalité profonde qui se trouve à l'intérieur de l'exercice du prêtre. Vous voyez, ça, je vous le rappelle, c'est capital, ça. Hein, parce qu'il n'y est pas là-dessus. Quand le prêtre célèbre vous donne l'absolution, vita, quand le prêtre vous donne l'absolution, hein, ou alors qu'il dit « Le Seigneur soit avec vous », si vous voyez à travers lui le sacrement qu'il a reçu, et donc la présence réelle de Jésus monté au ciel, assis à la droite de Dieu, prêt à revenir, et qui effectivement, à travers ce « Le Seigneur, c'est avec vous », oh, il est avec vous. Vous recevez, non pas le corps de Jésus comme à la communion, mais vous recevez l'âme humaine de Jésus qui brûle de gloire et qui est source de l'Esprit Saint pour le Père, éternellement. Et vous le recevez dans votre âme, et votre âme est dans votre corps. Et votre âme, vous la sentez, votre âme, puisqu'il y a la Neshama. Et dans la Neshama, vous sentez. Il ne faut pas dire, on ne sent pas la présence de la donation, de l'assimilation, de l'accueil, de la vie, de l'âme humaine de Jésus qui brûle de gloire et qui glorifie le Père, qui spire l'Esprit Saint pour le Père, éternellement. C'est une communion prodigieuse, c'est ici. À travers la pauvreté de l'instrument, c'est ça que vous recevez. Première chose. Deuxième chose, en faisant cela, vous réalisez avec lui ce qu'il y a de plus grand en plénitude, vous recevez l'Esprit Saint. Vous recevez l'Esprit Saint, plus exactement, vous recevez la très sainte Trinité. Vous pouvez dire, quand il dit « Le Seigneur soit avec vous », vous pouvez entendre « Je suis la très sainte Trinité ». La prochaine fois que tu viendras me dire bonjour, m'embrasser, si tu ne me reconnais pas trop, tu me diras « Mais qui êtes-vous ?» Et je te dirai « Je suis la très sainte Trinité ». Tu diras « Il est dingue ». Je dirais « Non, tu as perdu la foi ». Je suis la très sainte Trinité, parce que à travers moi, il y a le prêtre éternel, hein, c'est-à-dire Jésus, réellement, qui se donne, qui est là, et qui est présent. Je suis la très sainte Trinité. Donc, la communion des personnes, vous voyez le texte que nous avons lu, de la doctrine pour le clergé, la communion des personnes, le Père et le Fils, qui communient ensemble, et cette communion s'appelle l'Esprit Saint, c'est une communion d'amour. Eh bien, c'est ça la très sainte Trinité. Eh bien, elle est présente, je suis, réellement, dans ce monde créé, hier, la très sainte Trinité. Je suis la très sainte Trinité. Et c'est la présence de cette communion trinitaire incréée que je reçois aussi. Deuxièmement, troisièmement, il faut rappeler, hein, ça, on a resté 2 jours là-dessus. Hein. Troisièmement, comment on use du sacerdoce, comment on en jouit. Bon, qui peut me dire troisièmement pour voir si j'ai joué du violon comme ça pour les murs. Non, pour les fraises, oui. Troisièmement. Ah, non, aidez-moi quand même. Bon.
C'est l'unité des trois responsabilités trinitaires.
Ah, ça. Ouh, oui, alors lui, c'est merveilleux. Il a le don de brûler les étapes à une vitesse. Oui, oui. Mais alors, quels sont. Oui, alors, donc, il y a les deux autres. J'en ai vu une. La communion sponsale de la Très Sainte Trinité qu'on appelle l'Esprit Saint. Ah, je reçois celle-ci, d'accord ? Je reçois aussi... Oui ?
C'est le fruit qui est...
Oui, alors je vous ai expliqué, on a commencé, je voulais qu'on ne fasse d'ailleurs ces 3 jours et demi que sur ce troisième dont je vais vous parler maintenant. Je vous dis, on va regarder ça, on va vivre de ça, on va uniquement sur ce troisième. Jean, qu'est-ce qu'il a reçu ? La rencontre sponsale entre Jésus ressuscité d'entre les morts, monté aux cieux, et la médiatrice qui lui a été confiée. Cette rencontre extraordinaire, sponsale, éternelle, c'est dans l'éternité. C'est pour ça qu'il écrit l'Apocalypse, qui exprime en détail ce qui se passe dans cette fusion d'amour de l'homme et de la femme, de la nouvelle Ève et du nouvel Adam, dans l'une seule chair glorieuse, éternellement, mais de manière incarnée dans des corps d'hommes et de femmes, dans l'unité des deux, d'amour total, bonum. Entièrement caché, comme le nom de Jean est caché, entièrement caché, entièrement caché, mais il le dévoile, Apocalypse, dévoilement. Révélation de la révélation, c'est cette sponsalité-là, surnaturelle, incréée, dans quelque chose d'incarné, du monde humain. C'est formidable ça, eh bien je reçois ça, je reçois, si vous voulez, donc à l'Assomption, je reçois ce fait qu'il y a l'unité totale entre le roi du Père, le roi du Verbe, inspirant l'Esprit Saint, le roi de l'Esprit Saint, et le roi de la création, l'homme, qui assume la femme, et du coup, il lui donne toute son autorité, puisque la femme est la manifestation de l'homme, c'est elle la reine. C'est l'unité des deux, la reine. Et il reçoit la réalité de ce qui est derrière l'Apocalypse révélé. Et ça, c'est extraordinaire ce qu'il reçoit ici. Déjà, il le fait à la croix, hein, puisque Jésus dit « Femme !» Il a dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Totus tous. » N'est-ce pas ? Totus tous. Il attire tout à moi. Totus tous, c'est la devise du pape, tu sais. Je suis tout à toi, Marie. Hein. Bon, totus tous. Donc Marie est entièrement absorbée en lui. Une unité d'amour incroyable. Mais il se crucifié. Elle dit, ça y est, je ne le quitterai pas. Il va mourir, je pars avec lui. Et il lui dit, femme, voilà ton fils, tu restes ici. Pour Jean. Et c'est Jean qui reçoit l'unité de Marie et de Jésus qui dans cette séparation inhumaine. L'amour séparant. Et dans cet espace énorme, gigantesque, Le sacerdoce apparaît dans sa naissance. La nativité. C'est pourquoi la nativité, la maternité divine de Marie, par rapport au sacerdoce, est douloureuse. La maternité divine de Marie par rapport à l'incarnation est joyeuse et glorieuse, sans aucune douleur, sans aucune souffrance. Il est passé à travers elle sans l'abîmer, comme à la transfiguration, comme une lumière passe à travers la lumière, son corps n'a pas été touché. Mais cette séparation extraordinaire, qu'on voit dans l'Apocalypse d'ailleurs, permet la naissance du sacerdoce éternel du Christ dans ce monde pour qu'il puisse y avoir la Jérusalem nouvelle et plus tard la Jérusalem céleste. Bon, voilà ce qui est reçu à chaque fois que je vis que j'use d'un prêtre. Je n'use pas d'un prêtre, je ne vais pas user du père Patrick Marie, par exemple, à Cotignac, tu vois. Je ne vais pas l'user jusqu'à ce qu'il soit complètement énervé. Non, je vais user, je vais jouir de son sacerdoce. C'est pas pareil, hein. Je vais jouir de son sacerdoce. Parce que si tu commences à user Père Dominique Marie, par exemple, on peut préparer la tombe. Bon, alors, bien, alors, c'est pas bon, alors bon, alors très bien, la 3, 1, 2, 3, quatrièmement, qu'est-ce que je reçois encore? Mais je reçois, quand j'use du sacerdoce, que je prends ce contact, vous voyez, c'est tout à fait merveilleux, que je serre la main, dire bonjour mon Père, bénissez-moi, pardonnez-moi les péchés au nom du Christ, baptisez-moi, donnez-moi la grâce du baptême, puisque Jésus, la dernière parole que Jésus a prononcée sur la terre, la toute dernière, laquelle est la dernière, qui le sait? La toute dernière, la dernière c'est le plus important de tout, hein. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas et ne sera pas baptisé sera condamné. La foi, c'est quelque chose d'impératif, d'obligatoire. Pourquoi est-ce qu'il sera condamné? Parce que pour ne pas avoir la foi, eh bien, il faut vraiment avoir un orgueil fou. Il faut refuser la vérité. Parce que Dieu, Jésus donne la foi à tous. À tous ceux qui ne se ferment pas à la vérité. Mais quiconque cherche la vérité reçoit la foi. Si tu cherches la vérité, tu as automatiquement la foi. C'est peut-être pas explicite, mais c'est implicite. À ce moment-là, tu ne demandes qu'une seule chose, c'est de recevoir un bienfait. C'est pour ça que le baptême risque quoi de te faire du mal. Et donc, si tu es loyal, tu le reçois, puis c'est tout. Allez, alors celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La dernière parole du Christ, hein, avant l'ascension. La dernière. C'est impressionnant quand même. Alors, si pour moi Jésus, c'est pas le dernier des imbéciles, je dis, tiens, je vais quand même réfléchir à ça. Hein.
Dans les actes des apôtres,
tu crois? Alors, le quatrième reste du sacrement. La reste, il aurait fallu faire un truc, reste du sacrement. Présence du sacrement. C'est une autre présence de communion. C'est quand moi, sacerdoce royal, comme Marie, sacerdoce royal de Marie, rencontre le sacerdoce éternel du Christ. Et bien quand, de la même manière, moi, dans mon sacerdoce royal, je reçois la communion des mains d'un prêtre sacerdoce ministériel, il y a un contact qui se fait. Mais est-ce que c'est un contact entre cette personne individuelle-là et moi? En vérité, non. C'est le contact, ce contact se fait à ce moment-là entre toute l'Église, dont Marie d'ailleurs est l'enveloppe réelle, médiatrice de toutes les grâces, et tous les prêtres, dont le Christ est l'enveloppe physique réelle. Donc, vous voyez bien qu'il y a une communion qui se fait entre tout le sacerdoce surnaturel du Christ présent dans l'univers et toute l'Église. Et dans l'unité de ces deux, se fait l'unité du genre humain tout entier. Voilà ce qui advient, si vous voulez. C'est vrai que c'est toujours dans la foi, hein. Tous nos sacrements, c'est les sacrements de la foi, de l'espérance et de la charité, et de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, on ne peut pas le saisir, ça. Parce que l'amour est toujours en appétit, ça. Il veut toujours plus. Alors voilà ce que je vis. Je vis de la communion de toute l'Église. Et enfin, cinquième fruit du sacrement, cinquième reste du sacrement, mais qui en est plutôt le fruit, n'est-ce pas? Que, une fois que je suis à nouveau dans ma cellule, que j'ai reçu ces quatre dont je viens de vous parler, les quatre torrents du paradis viennent de là. Dans le paradis, il y a quatre grands fleuves qui inondent le paradis. Voilà les quatre paradis. Alors je reçois ici, dans ce petit océan qui est le mien, je reçois ces quatre fleuves. À ce moment-là, j'en jouis. Voilà. Juste de ces quatre outils, être fruit, je réceptionne ces quatre en moi. Et ça y est, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand je les rassemble dans un monde, dans un seul amour, je ne vis que de l'amour. L'amour de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. L'amour du Christ et de la Vierge dans cette royauté éternelle, incarnée, source de gloire et de l'Esprit-Saint. L'amour de la sainteté absolue de toute l'Église, avec le sacerdoce absolument plié et parfait du Christ sur la terre, qui réalise le sommet de l'amour de toute l'humanité, se mélange tous les trois dans un seul amour. Il n'y a plus qu'un seul amour. Indistinctement, ces trois-là sont un seul amour. Et c'est le pouvoir que j'ai d'unifier ces trois amours. Et la conséquence, c'est que le retour du Christ, l'éternité, est anticipé. Et quand je dis anticipé, ça veut dire que l'éternité, par rapport au temps, se rapproche. Tandis que je vous rappelle, donc, encore une deuxième fois, troisième fois, que quand il s'agit du sacrement de mariage, il y a un fruit semblable, mais c'est le temps, c'est tous les temps qui se rapprochent du retour de l'époux. Et donc ces deux sacrements sont corrélatifs. Et sont tous les deux des sacrements du côté de leurs fruits qui correspondent à la vie, à la fin de tout. À la fin de Dieu, à la finalité de Dieu, à la finalité de la création, à la finalité de la résurrection, à la finalité des... Vous voyez, à tout. À la fin du monde, quoi. À la glorification. Ce sont ces deux sacrements qui vont produire le retour du Christ, si vous préférez. Voilà.
Juste de ramener les deux rapidement, les deux premiers, parce qu'il y a la responsabilité d'incréer la personne trinitaire, on reçoit cela, ça la reste.
La première, vita, tu reçois, quand le prêtre, il met. Tu n'as jamais assisté à une messe du Père Jean, par exemple, qui est mort l'année dernière qui, ah, demain, ben, tu l'as vu parler. Bon, tu as vu qu'il ben, il met toute sa vie là-dedans. Il t'explique, bon, ben, Seigneur, eh bien, Jésus, eh bien, il a dit. Dans sa parole, eh bien, veillez et priez. C'est vrai ou pas? Eh bien donc, eh bien il faut veiller et prier. Bon, tu vois, alors donc quand il t'enseigne là, quand il t'enseigne dans la parole du Christ, ok, il y met toute sa vie. Eh bien, quand un prêtre met toute sa vie dans une des trois monera, eh bien, à travers ça, c'est l'âme humaine de Jésus qui se communique à toi telle qu'elle est actuellement en tant que grand prêtre, source de l'Esprit Saint. Ça va? Et tu le reçois dans ton âme. Ça va? Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'Esprit Saint, la très sainte Trinité, puisque le Christ... Et en tant que prêtre, est source de l'Esprit Saint. Donc tu reçois effectivement le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans leur communion trinitaire.
C'est un rapport à ce que vous disiez que la Trinité est envoyée à l'attention missionnaire.
Ah, c'est pas moi qui dis ça, c'est le.
C'est l'envoi des trois personnes. Enfin, l'envoi, on peut pas dire l'envoi.
Mais... Non, c'est la conjonction de la deuxième partie de la reste, donc la communication de l'Esprit Saint. Dans la présence de cette communion trinitaire et de la troisième, c'est-à-dire que ça se réalise dans une communion, et de la quatrième, c'est-à-dire que ça se réalise dans une communion de l'Église et du sacerdoce tout entier. Alors à ce moment-là, ces deux sont ensemble. La Très Sainte Trinité, normalement, elle est tout occupée à elle-même, mais comme elle se réalise aussi dans l'amour de l'Église et du peuple tout entier, et du sacerdoce tout entier, du coup, d'un seul coup, il y a une conversion de la Très Sainte Trinité dans son amour qui est en tension missionnaire. Et le pain et le vin sont convertis dans le corps du Christ et le sang du Christ, et la Très Sainte Trinité est convertie. Convertit son amour qui est tout entier dans son éternité, en lui-même, exclusif, dans l'unité de Dieu, en tension missionnaire. C'est une conversion prodigieuse. Parce que pour convertir la Très Sainte Trinité, tu peux toujours te lever de bonne heure. Et ben voilà.
Ça correspond à l'Esprit
Saint. L'Esprit Saint, la Très Sainte Trinité. La tension missionnaire. La tension, en tension missionnaire, c'est là, Vérum. La mission, être missionnaire. Le missionnaire, en tension missionnaire. Missionnaire. Il apporte l'amour du Christ partout. L'amour de la Très Sainte Trinité partout. Bon. Voilà. Oui. Nathanaël dans le devenir. Ben Nathanaël, c'est celui qui comprend parfaitement tout le sacerdoce de l'Ancien Testament, toute cette prophétie sur l'avenue du Messie, qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek qu'on attend, et la grande victime d'amour, et le sommet de l'échelle de Jacob, laquelle l'échelle de Jacob exprime tout le devenir du salut attendu par Israël. Et il comprend tout ça parfaitement. Et il le reconnaît en disant, mais oui, c'est moi qui te regardais. Quand au sommet, tu essayais de voir qui était celui qui te regardait au sommet de l'échelle de Jacob et qui descendait vers toi. C'est moi qui te regardais. Ah, tu es le Messie. Et juste avant, comme il regardait plutôt le bas de l'échelle, il disait, tu viens de Nazareth? Et il plissait la narine. Puis c'est la narine, narigouze, comme si ça sentait mauvais, c'est en Nazareth. Nazareth, c'est un endroit où il y avait beaucoup d'éclectisme, c'est beaucoup de... Quand c'est des gens, vous savez qu'au niveau doctrinal, ils sont pas futés, ils racontent n'importe toutes sortes de bêtises, tout ça. Pour un théologien intelligent, c'est que Nazareth, c'est l'éclectisme à Nazareth. C'est le lieu de l'éclectisme, Galilée, tout ça, des Sadducéens, des Hérodiens, des Galiléens, des Pharisiens, un peu de tout là-dedans. C'est... Quoi? Tu viens de Nazareth, toi? Mais, parce qu'il aimait la doctrine, tu vois, il était très théologien, il était théologue. Et en tant que tel, du coup, il touche, il voit, il l'a vu. Et il était donc capable de le reconnaître. Et c'est le devenir, l'échelle de Jacob. Hein. Il me semble. Mais c'est un devenir substantiel. Attention. C'est pas un devenir terrestre, c'est un devenir d'en haut. Voilà.